Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Depuis longtemps, elle travaille le son, le chant, le journalisme, mais ça pour elle, c'est nouveau. 2 ou 3 ans, pas beaucoup plus. Ça, c'est-à-dire artiste, créatrice sonore. Pourtant, elle a déjà remporté quelques prix et la route qui s'ouvre devant elle s'annonce pleine de promesses. Elle, c'est Aurélie Liermann, qui sera dans l'atelier du son au micro de Thomas Baumgartner, en duplex depuis Bruxelles. De Belgitude, il sera question, puisque c'est là qu'elle s'est installée. Mais du Rwanda surtout, son pays d'origine, sa terre de naissance, quelques jours après les 21 ans du début du massacre, en avril 1994. Dans sa pièce, au tas micro, elle reconstituait ses mémoires d'enfance. On est immédiatement dans la voix, dans la tête, dans la peau d'Aurélie Liermann. Ses paysages sonores vont au-delà des stéréotypes. Ils sont instables, mouvants, vivants. Le Rwanda est encore au centre de sa pièce sonore « Anosmia ». Anosmia, issue du grec ancien qui signifie « le manque ou la disparition de l'odorat ». C'est un voyage sonore avec pour départ un poème « Politics of the Nose » du poète rwandais David Mwambari. Ce sera dans la deuxième partie de l'atelier du son, tout de suite, inventaire des avant-gardes.
En ce 2 novembre 1964, les musiciens qui créent INSI de Terry Riley au San Francisco Tape Music Center se rendent-ils compte du caractère éminemment révolutionnaire de l'œuvre qu'ils donnent à entendre pour la première fois? Saisissent-ils que derrière sa simplicité extrême et son aspect volontairement iconoclaste, elle pose le premier jalon d'un des mouvements musicaux les plus féconds des 40 années à venir? Comment un compositeur américain peut-il à ce point balayer les certitudes défendues par l'avant-garde européenne en reprenant contact avec la pulsation ultra-régulière, la répétition, la consonance et la tonalité? Comme une évidence, la musique minimaliste est sur le point de naître sous son aspect répétitif. Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. La musique dans l'histoire, l'expression artistique sonore dans l'histoire, comment la musique est, comme le reste, dans le flux du temps, voir comment elle pressent les modifications de ce flux, et comment des pièces légendaires et fondamentales se constituent dans et avec ce flux. C'est le propos de Musique savante, de Ligeti à la fin de la guerre froide, 1963-1989, édité par Le Mot et le Reste, et signé Guillaume Kosmicki, qui est l'invité de la première partie de l'émission de ce soir. Bonsoir Guillaume Kosmicki.
Bonsoir.
Bienvenue, merci d'être là. Vous étiez déjà passé quelques fois dans l'atelier du son. Je crois que la dernière fois, c'était pour parler d'un autre livre qui était paru aussi aux éditions Le Mot et le Reste.
Absolument, c'était sur musiques électroniques.
Sous-titré des avant-gardes au dance floor. Et là, vous poursuivez différemment le propos, on peut dire ça.
Ah, c'est vrai que je m'intéresse toujours au XXe siècle, hein. C'est un petit peu ma rote, ma passion. C'est un projet que j'ai démarré avec un premier volume, hein, qui courait de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1962, qui s'appelait De Debussy au mur de Berlin. Et puis là, effectivement, on vient de lui donner une suite avec de Ligeti à la fin de la guerre froide. Et puis un projet, bien sûr, qui va courir jusqu'à nos jours. Hein. Il y a un troisième volume en préparation.
Oui, c'est là, ça s'arrête avant la chute du mur de Berlin, donc en 89. Et donc, je disais, le propos, c'est d'intégrer ces avant-gardes, ces inventions musicales et sonores. Est-ce que c'est de les intégrer dans le flux de l'histoire ou c'est de montrer les ponts entre l'un et l'autre, voir comment parfois cette musique, ces créateurs ressentent les flux de l'histoire avant même qu'ils éclatent au grand jour?
Ben effectivement, c'est un petit peu tout ça. Ça fait partie vraiment de mon credo, on va dire, de musicologue. La musique, de toute façon, c'est un moyen de comprendre le monde, de nous comprendre dans le monde, de comprendre notre univers, de le mettre en projet, peut-être pour l'expliquer, pour peut-être aussi un peu essayer de l'arranger, hein, ça c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que la musique permet aussi de changer le monde? Ça on peut se le demander, mais il est vrai que les artistes en général, par leur sensibilité, ont cette faculté souvent, pas toujours, mais souvent, de pressentir aussi l'histoire, hein, évidemment. Et c'est pour ça que dans ces titres de ces volumes là sur les musiques savantes du XXe siècle, je mets toujours donc un compositeur aux côtés d'un événement historique. Là c'est Ligeti, puis la fin de la guerre froide, et c'est exactement le propos du livre, hein, effectivement, de relier les esthétiques les plus avant-gardistes, voire d'autres un petit peu plus conservatrices qui regardent un peu vers le passé, mais de relier ça toujours à des moments historiques forts, importants du siècle, parce que c'est une manière de réagir à cela, hein, évidemment, ou de présager, de préparer.
Vous dites que vous mettez en lien des moments historiques des compositeurs. Dans ce livre, il y a quelques textes que vous signez où vous, d'ailleurs, vous remettez les époques dans nos esprits, ce qui se passe à tel et tel moment entre 63 et 89. Deux grands textes en particulier au cours de ce livre. L'essentiel néanmoins sont des rencontres avec non seulement des artistes, des compositeurs ou des interprètes, mais aussi une œuvre précise. C'est comme ça que vous faites, qu'on avance dans la lecture.
Alors oui, c'est le principe que l'on a choisi, hein, avec mon éditeur, donc le Molores, pour ces livres. Ce sont des grandes introductions historiques qui effectivement servent un peu de piqûre de rappel, hein, pour se remettre l'époque dans l'esprit et puis revoir un peu les grandes dates, les grands changements sociaux, les conflits, évidemment les combats pour que les choses changent, hein, dans le monde occidental et puis un peu ailleurs aussi autour. De ces grandes introductions qui sont aussi des introductions sur les grands courants esthétiques du moment, on passe à une série d'œuvres que je choisis, hein, bon bien sûr avec un aspect forcément subjectif, mais c'est quand même un catalogue, hein, qui permet de se rendre compte un peu de la diversité stylistique de l'époque. Et je précise que quand j'appelle cet ouvrage Musique savante, ce qui est un titre qui peut faire peur, j'ai choisi, c'était pour le premier volume déjà, un terme qui est peut-être le moins pire de tous.
Oui,
en ce sens que voilà, je dis pas expérimental, je dis pas. On a pire, hein, vraiment, on pourrait dire. Alors, quand on pense à musique savante, on pense à musique savante, musique populaire, c'est la meilleure façon de le dire, mais c'est vrai que on pourrait penser à musique savante puis petite musique, quoi, musique de divertissement, musique. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette même émission, hein, du fait que je me suis intéressé évidemment, hein, dans ma vie de musicologue à des musiques que l'on dit, hein, des musiques populaires. J'ai travaillé très longtemps sur la techno, les raves, donc je les estime évidemment aussi intéressante, aussi importante à étudier, hein, que toute autre musique.
Vous dites, en fait, c'est une manière de dire, il n'y a pas de degré de valeur que vous intégrez à l'intérieur des mots.
C'est ça, il n'y a pas cette idée de grande musique par rapport à une petite musique, c'est bien ça l'idée. Il se trouve que dans les exemples que je choisis, il y a des exemples qu'on n'aurait pas, on va dire, facilement comme ça, de prime abord, classés dans les musiques savantes, en ce sens que j'ai choisi aussi, dès le premier volume, d'y mettre aussi des exemples de jazz. Là, dans celui-là, forcément, quand on est dans les années 60, dans des années où la pop est tellement importante, tellement primordiale et qu'elle est tellement proche aussi pendant un temps des musiques savantes, c'était tout à fait naturel de parler aussi de groupes tels que les Beatles, tels que Pink Floyd, et puis de citer des exemples comme ça qui sont, à mon sens, par exemple l'album des Beatles, Sgt Pepper, tout aussi savant dans la pratique, dans la mise en projet, dans l'expérimentation qui va courir tout autour de la préparation, de l'enregistrement, tout aussi légitime à figurer, hein, dans cette liste, hein, aux côtés de Boulez, de Ligeti, de Stockhausen, que l'on classe plus facilement dans ces musiques-là.
Ou de John Coltrane.
Absolument.
Ouais. Évidemment, on va en parler. On est là aussi non seulement pour parler, mais écouter des extraits, illustrer, faire une sorte de bande son partielle de ce livre important, donc Musique savante, Guillaume Kosmicki. On a commencé par Terry Riley, donc qui n'est pas le premier morceau cité, mais le deuxième, je crois.
C'est ça.
Terry Riley, 1964, In Si, donc en do. En do majeur.
Absolument, en do.
Et vous dites, In Si de Terry Riley, c'est une œuvre séminale. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, c'est vraiment la première fois qu'on entend dans la musique occidentale une musique répétitive comme ça. Et c'est vrai que ça va essaimer, ça va engendrer tout un courant. Hein. Je ne suis pas sûr véritablement que Terry Riley pensait vraiment à ce point-là qu'il allait avoir des gens qui allaient continuer un peu sur cette voie. Mais c'est vrai qu'il avait fondé déjà une esthétique par ses rencontre avec la Monte Young, il avait déjà senti ce que pouvait amener l'influence de l'Orient, peut-être l'influence aussi de l'Afrique à la musique occidentale. Et il y a quelque chose de très provocateur effectivement dans le fait de choisir, d'affirmer comme ça la tonalité en do, alors qu'on est dans un monde où la plupart des compositeurs qui ont trouvé, ou censément trouvé la nouvelle voie, se sont complètement détachés de ce genre de préoccupations. Et ne faire que du dos, surtout que du dos, ne tourner qu'autour de ce dos et insister sur l'hypnose, l'effet psychoacoustique que ça peut produire, c'était des choses qui n'étaient absolument pas dans les projets du temps et c'est quelque chose qui par la suite va donner évidemment de nombreuses autres expériences. On en connaît deux noms parmi les plus réputés, c'est Steve Reich et Philip Glass, bien entendu.
Mais vous voulez dire que c'était une forme de résistance ou de réponse de l'avant-garde à l'avant-garde ?
Disons que Terry Riley s'était intéressé effectivement à l'avant-garde. Il va même faire un voyage à Darmstadt. Il va même aller dans ce fin de l'avant-garde, on va dire du vieux monde, du vieux continent. Mais il a senti aussi autre chose avec le jazz dans sa jeunesse. Il a senti bien d'autres émotions musicales. Et il se demande pourquoi effectivement on ne peut pas aussi intégrer ces émotions, ce type de geste, de pratique dans les musiques d'avant-garde effectivement. Et il travaille dans un laboratoire. Il a créé, même participé à la création de ce laboratoire à San Francisco, le San Francisco Tape Music Center, et se trouvent là des jeunes étudiants, puis surtout des gens qui veulent avancer, expérimenter, tester. Et il se trouve d'ailleurs que dans l'orchestre qui a créé l'œuvre, la première version, il y avait justement Steve Reich qui était étudiant là-bas en musique. Et donc c'était vraiment, on peut imaginer. Alors il le dit, il n'avait pas senti forcément ce qui se passait du côté de San Francisco parce qu'on est en pleine montée de courant de contre-culture, le flower power qui va bientôt exploser. Il avait peut-être pas senti directement, pas vu directement tout cela, mais il dit que probablement qu'il y avait ça dans l'air du temps et que ça a pu influencer évidemment quelque part c'est son esthétique.
Alors encore une fois, votre livre Guillaume Kosmicki fait le lien entre l'histoire, les mouvements de l'histoire et puis les mouvements artistiques musicaux en particulier. Vous faites le lien entre le minimalisme donc et la fin des colonies.
Absolument. On est en plein dans un mouvement très important de décolonisation. C'est vrai qu'à ce moment-là, plus que jamais, l'Occident regarde le monde d'un tout autre œil. Comme jamais il ne l'a regardé. C'est la première fois qu'on commence à écouter l'autre avec véritablement un regard pas du tout condescendant, un regard pas tout à fait encore d'égal à égal, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de changer.
La naissance de l'altérité.
Absolument, absolument. Et ce changement, la musique peut-être en présage plus rapidement que dans d'autres cas, bien entendu, mais c'est tout à fait ce qui se passe.
C'est la rencontre de la ville grouillante et des temporalités africaines et orientales, c'est ce que vous dites aussi.
Alors c'est vrai que dans ces musiques répétitives, il y a aussi quelque chose de l'urbanité, de la grande industrie des États-Unis, de l'automobile, du rock'n'roll, ça c'est Steve Reich qui le dit, Philip Glass le dira aussi. Il y a quelque chose aussi de tout à fait lié à la culture américaine, mais effectivement qui va regarder ailleurs et qui va se nourrir de ce que l'on peut expérimenter par ailleurs. Une notion du temps surtout, une temporalité qui est très différente. Le morceau de Terry Riley, suivant l'interprétation qu'on en donne, peut durer entre 3/4 et 1h30. Il dit qu'il faut se limiter dans ce créneau-là, mais qu'on pourrait tout à fait aussi le faire durer beaucoup plus longtemps, parce que chaque séquence, il y a quelques dizaines de séquences à jouer, et bien chaque séquence, finalement, on les joue autant de fois qu'on veut. Il faut s'arranger un peu au début, ou pas d'ailleurs. On peut aussi ne pas s'arranger, puis de se laisser aller au feeling du jeu. Et l'essentiel aussi, c'est de jouer ensemble et de jouer en fonction de ce que l'autre va apporter. Là, il y a quelque chose de très jazz, évidemment, dans la pratique. Donc, un mélange de très nombreuses influences, effectivement, qui donne une esthétique véritablement nouvelle, qui a marqué profondément les années à venir.
Alors, à l'intérieur de formes d'expression déjà existantes, il y a aussi des évolutions. Vous parliez du jazz à l'instant, Guillaume Kosmicki. On a parlé de John Coltrane. Vous l'intégrez dans votre livre Musique Savante, entre 63 et 89, donc, John Coltrane, à travers un morceau en particulier, à travers un disque, Love Supreme, 1964.
Absolument. Alors oui, il faut aller en choisir un. Mais Coltrane, ben, voilà, c'est tout à fait, à mon sens, judicieux de l'intégrer hein, dans ses compositeurs. Je veux dire, il est presque incontournable. Et on est dans une période, évidemment, où le jazz va arpenter des chemins, on va dire, beaucoup plus libres. On parle de free jazz hein, depuis le début des années 60. Et Coltrane est un petit peu à la frontière entre ce qu'il a appris auprès de Miles Davis, le jazz modal, et puis ce fameux free jazz dans lequel il va finir par pénétrer véritablement. Cet album est un peu à la frontière des deux. Je le trouve vraiment admirable parce que, je ne suis pas le seul, c'est quand même un album absolument incontournable hein, de l'histoire du jazz et de l'histoire de la musique, mais c'est vrai qu'il y a cette faculté. Là, il y a quelque chose qui fait que même les non-spécialistes pourront quand même s'y plonger. Y a d'autres albums qui vont peut-être aller plus loin dans le free, les frontières, les dépassements des frontières, mais qui seront peut-être plus difficiles d'accès. Celui-là, c'est une porte d'entrée assez incroyable. Et puis, au niveau du parcours hein, personnel de Coltrane, il y a quelque chose de très très fort, évidemment. Il y a une spiritualité profonde qui va parcourir hein, l'ensemble des pièces de l'album. Si bien que d'ailleurs, même la dernière pièce, Psalm, est une pièce qui repose entièrement sur une prière qu'il a écrite, hein, pour remercier finalement le divin, mais c'est un divin dans un sens très large, hein, parce qu'il a embrassé des diverses spiritualités, hein, évidemment le bouddhisme, l'hindouisme, là aussi il va regarder ailleurs, hein, plus loin que le christianisme occidental, hein, bien plus loin, et effectivement il va écrire cette longue prière, et sans le dire d'ailleurs à ses musiciens, son jeu, sa mélodie de saxophone, c'est en fait la prière entièrement déclamée hein, musicalement par le saxophone, comme un preacher. Donc il y a quelque chose de vraiment très novateur là derrière, parce que c'est une partition, c'est une vraie partition, on peut dire c'est de la musique écrite, un peu comme les partitions graphiques de l'époque, hein, sauf que cette écriture est un texte, et ça marche très très bien.
Et dans la première partie de Love Supreme, dans Acknowledgement, autre dimension mystique, c'est sa voix qui apparaît à la fin.
Absolument, il va la rajouter, alors il ne la rajoute pas directement dans la première prise, il la met en ce qu'on appelle le re-recording, hein. Il rajoute hein, une voix après coup, et effectivement il rajoute ce titre hein, qui lui semble tellement important d'imprimer comme ça dans l'album, le titre de l'album Love Supreme, et c'est cette petite séquence de quelques notes hein, qui a été donnée par la basse hein, initialement, et qui va imprégner hein, toute la pièce, toute l'improvisation à partir d'un tout petit embryon de presque rien, voilà ce génère une structure gigantesque, et là aussi on est dans le cadre de quelque chose de l'ordre de la musique minimaliste hein, aussi.
Minimalisme et mysticisme.
Absolument.
Kosmiki est l'invité de l'Atelier du Son ce soir sur France Culture pour son livre Musique savante de Ligeti à la fin de la guerre froide 1963-1989. On a compris, vous y avez intégré John Coltrane, A Love Supreme en particulier, et dans ce lien que vous faites dans votre livre, Guillaume Kosmiki, entre les grands mouvements de l'histoire et les grands mouvements artistiques de l'époque, comment les uns les autres se répondent, ou comment la musique peut pressentir certaines choses. Vous dites, évidemment, sur cette période, il y a la menace atomique, la menace de l'auto-anéantissement. Voilà comment vous en parlez, les deux blocs face à face. Et vous dites, une nouvelle crise à gérer pour l'art. Alors, ce qui y répond, c'est plusieurs choses, notamment le mélange assumé des influences, des figures comme Frank Zappa, par exemple, qui éclate totalement les frontières, ou aussi des manières de voir. Quand vous parliez de Terry Riley, on était déjà un peu là-dedans. L'œuvre ouverte, qu'est-ce que c'est l'œuvre ouverte ?
Ah, l'œuvre ouverte, c'est une voie qui a été ouverte. Alors, c'est le cas de le dire, peut-être les expériences de John Cage sur le hasard, dès les années 40 puis 50, il a intégré la notion de l'aléatoire dans ses œuvres. Alors, l'œuvre ouverte, c'est peut-être pas tout à fait ça. Hein, c'est pas en tout cas uniquement ça. Mm-hmm. L'aléatoire, c'est donc cette part de hasard qui fait qu'on va avoir des choix à faire, on va avoir éventuellement, pourquoi pas, aussi des choix qui vont s'imposer à nous, hein, par, je sais pas moi, des jeux de dés, des jeux de tarot, ouais, enfin ouais. Toutes sortes de médias comme ça. L'œuvre ouverte, c'est aussi, alors selon certains compositeurs tels que Bourgeois-Chief par exemple, au contraire, du hasard, du pur hasard, donner de la liberté à l'interprète et lui donner aussi une part de création très importante. C'est-à-dire que l'interprète, de toute façon, hein, quelle que soit la musique, il a une part toujours très importante. Même quand on joue une partition de Mozart, de Beethoven, on sait très bien que d'un interprète à l'autre, il y a des choses qui sont radicalement différentes. Mais là, vraiment, c'est jouer de cela et lui laisser, en accord avec le geste du compositeur, en accord avec des pistes, des choix qu'il lui donne sur une partition, que ce soit d'ailleurs une partition graphique ou une partition avec des choix multiples, et bien lui donner une part, une grande part, plus ou moins grande d'ailleurs, de liberté pour qu'il prenne part entièrement à cette création. On est dans les années 60 quand même dans une décennie de liberté, hein, vraiment, il ne faut pas l'oublier, et outre ces menaces, outre ces craintes quand même qui sont très fortes, il y a quand même cette quête généralisée de liberté, et elle se retrouve très clairement d'ailleurs dans ce genre de travaux.
Et certains compositeurs utilisent cette liberté pour répondre très précisément aux événements de l'actualité du moment. Je pense par exemple à George Crumb, compositeur américain. La pièce que vous mettez en avant dans votre livre à son propos, c'est Black Angels, qui est très précisément une réponse à la guerre du Vietnam.
Ah oui, tout à fait. Alors, il le dit, qu'il s'en est rendu compte vers la fin de l'écriture, mais bon, il le sentait, il dit qu'il y avait quelque chose de très grave dans l'air et que finalement, il signe à la fin de cette œuvre, Intempore Belli, en temps de guerre, 1970. Là, pour le coup, c'est pas une œuvre ouverte, parce que là, George Crumb, pour le coup, lui, il est très structuré, il fait des choses avec des symétries, des nombres très symboliques, il a vraiment beaucoup d'intérêt pour les choix des nombres, du nombre de pièces, etc. Il y a une sorte de palindrome musical avec un sommet au milieu, puis un miroir avec toutes les pièces qui se reflètent de l'une à l'autre.
Ah, c'est l'oulipo pour la musique, quoi. C'est de l'oumupo, l'ouvoir de musique potentielle.
À peu près,
sans savoir.
Quelque chose comme ça. Et il va utiliser le nombre 7, le nombre 13 comme nombre très très symbolique, et puis surtout des symboliques autour de la mort, et des symboliques autour d'un certain nombre de thématiques. Alors il y a le dieu, le diable, il emprunte aussi beaucoup à la musique du passé. On y entend un extrait de La jeune fille, la mort de Schubert, on y entend un extrait très déformé d'ailleurs du Dies Irae du Requiem grégorien. Et c'est donc joué par un quatuor à cordes qui est amplifié électriquement et sur lequel on rajoute d'ailleurs des échos, et puis surtout un quatuor à cordes qui est joué avec un certain nombre d'extended techniques, c'est-à-dire dépasser finalement ce que l'instrument, la manière dont on jouait l'instrument traditionnellement. C'est-à-dire par exemple d'utiliser des archets qui sont pour le coup ici des tubes de verre qui vont glisser sur les cordes, des dés à coudre, d'utiliser aussi, même en dehors du quatuor d'ailleurs, il rajoute des verres de cristal remplis d'eau et qu'on joue avec des archets qui vont du coup donner une sorte d'harmonica de verre assez aérien. Et puis il y a énormément d'évocations, quand il parle de Death Angels, les anges de la mort, et bien ce sont aussi les Death Angels, les hélicoptères ou les avions qui bombardent au napalm le Vietnam. Il y a toujours ce double sens entre la mort, le bien, le mal, et puis cet événement effectivement tragique que traversent les États-Unis, cette guerre du Vietnam, évidemment contre laquelle Crumb est totalement engagé.
Thank you. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Vous écoutez l'Atelier du son. Thomas Baumgartner sur France Culture.
Un extrait de Black Angels de George Crumb, une pièce donc de 1970 dont on vient de parler. Alors dans votre livre Gum Cosmiki, par exemple, il y a des périodes où vous dites la science est là pour nous sauver. Il y a une sorte de positivisme, de volontarisme à l'égard de la science et notamment de voilà, on a la période où la France se met dans les mains du nucléaire, on va dire. Ça vous le soulignez. On n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire.
Absolument.
Et vous mettez ça en parallèle avec la création de l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, le lieu en France où la recherche scientifique et la musique marchent main dans la main. Cet endroit-là, qui est donc évidemment le lieu où notamment la musique et l'ordinateur apprennent à marcher ensemble, sous la houlette de Pierre Boulez. Donc voilà une figure que vous intégrez évidemment à votre livre.
Oui, comment ne pas le faire ?
Bien sûr, mais à travers ce prisme-là du mouvement de l'histoire.
Oui, tout à fait. Ben oui, alors c'est vrai que 73 est une date absolument charnière. Hein. Cette crise du pétrole, elle va mettre fin aux 30 glorieuses, fin à une période historique particulièrement importante de l'Occident, hein, avec aussi cette arrivée de l'American Way of Life hein, dans tout ce monde occidental. Et puis là, boum, évidemment, toutes les certitudes s'effondrent. Et il y a plusieurs réponses musicales qui se font. Et effectivement, une réponse particulièrement scientifique, hein, très étonnante, hein, à laquelle on assiste hein, aux alentours de 74, 75, 76. Alors l'IRCAM est un projet qui date d'un peu avant. C'est vrai qu'il a été intégré au centre Georges Pompidou, hein, un peu sur le tard. Il a fallu creuser d'ailleurs hein, pour installer le lieu, mais c'est un projet qui date d'avant, mais qui correspond parfaitement, vraiment parfaitement à ce nœud de l'histoire, et un nœud de l'histoire qui fait que d'ailleurs l'aspect scientifique se retrouve même dans des lieux où jusqu'alors on n'était pas forcément tellement tourné vers là. Je pense au GRM bien sûr, le GRM où Parmigiani va composer De Natura Sonorum, ça aussi c'est tout un programme. Je pense à tout cet essor hein, de la musique spectrale aussi, qui est tout à fait une musique à la fois très sensible, très attaché aux effets que fait le son sur le corps, mais aussi très tourné vers les sciences, la science de l'acoustique et qui ça s'inscrit, enfin qui va créer des grammaires musicales entièrement basées sur ces règles, hein, ce qui est très novateur et très scientifique. Une sorte de refuge, hein, c'est vrai, quand ça va pas, bah, la science peut aider. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut répondre hein, à toutes les angoisses.
On arrive au terme de cette première partie déjà de l'émission.
Oui.
Je voudrais qu'on termine par une figure, celle de John Adams, et notamment de Nixon in China, un opéra.
Oui, c'est un opéra assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que pour le coup, ça prend un thème qui est un thème contemporain, très 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 proche. C'est la visite de Nixon donc auprès du président, de Mao, hein, en 1972. Et c'est un opéra dont le projet est mené à partir de 83 et qui va se terminer en 87. C'est un projet de très très longue haleine. Et en vérité, c'est Peter Sellars, hein, le metteur en scène, qui a proposé ça à John Adams. Et John Adams, en vérité, comme Peter Sellars d'ailleurs, très ancré à gauche, hein, plutôt démocrate, et ça lui semblait complètement fou de prendre un sujet aussi proche de l'actualité, et puis surtout de prendre un sujet comme ça à propos d'un personnage républicain qui n'était pas du tout dans son champ politique.
Encore vivant à ce moment-là. Kissinger est dans l'opéra aussi.
Absolument, absolument. Tous les personnages historiques y sont, puis toutes les situations historiques y sont. Et Peter Sellars a insisté pour montrer à quel point la situation finalement avait quelque chose de dramatique. Quelque chose de plus, c'est que donc John Adams ne composait pas d'opéra, c'était pas forcément non plus son domaine, et donc il a dû complètement se lancer hein, dans quelque chose de très nouveau pour lui, et donc avec la poétesse Alice Goodman, donc ça a été un travail à trois, hein, vraiment un trio qui a mené à bien cette expérience, et donc est né donc l'opéra d'actualité, hein, comme on l'appelle. Certains disent aussi, alors le terme m'échappe, mais c'est l'opéra CNN, bon, donc c'est un petit peu péjorativement, mais c'est pour le coup en plus un opéra qui va emprunter à une esthétique qu'on appelle postmoderne, qui est tout à fait caractéristique de cette époque, on va dire 80-90 jusqu'à nos jours. C'est une époque de mélange stylistique à tout va, hein, vraiment sans aucun complexe. On mélange donc pour le coup l'esthétique minimaliste répétitive de Terry Riley qu'on a entendu en début d'émission, et on la mélange en fait pour le coup à John Adams adore la musique romantique. Alors il a des accents de Mahler, il a des accents de Richard Strauss, il y a des accents de Mozart, un petit peu, il y a un petit peu de tout ça, un vrai mélange, une vraie mosaïque, une mosaïque sonore. L'Amérique a toujours aimé d'ailleurs les mosaïques sonores. C'est vrai que c'est typique de cette nouvelle nation, hein, quelque part, mais à ce point-là, peut-être jamais. Hein.
Musique savante de Ligeti à la fin de la guerre froide, c'est votre livre, 1963-1989, les liens entre l'histoire, les flux de l'histoire et la création musicale, les musiques savantes multiples, on l'a compris. C'est édité aux éditions Le Mot et le Reste et c'est signé par vous, Guillaume Kosmiki. Merci d'être passé par l'atelier du son. On termine avec un extrait de Nixon in China de John Adams. Merci.
News, 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 news. News, 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 news has a kind of mystery. Has a kind of mystery. When I shook hands with Joe and Lai, when I shook hands with Joe and Lai, on this bare field outside Peking, just now the whole world was listening. The whole world was listening, listening, listening. And though we spoke quietly, and though we spoke quietly, and though we spoke quietly, the eyes and the ears of history.
Aurélie Liermann, figure toute récente dans le monde de l'art sonore et radiophonique, est déjà une manière toute personnelle de marier la parole articulée, la voix chantée et la matière sonore, comme vous l'entendez là sur une pièce, le début d'une pièce intitulée Iota Micro. On va faire connaissance avec Aurélie Liermann, invitée de la deuxième partie de l'atelier du son. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Thomas.
Vous êtes en duplex avec nous depuis la RTBF à Bruxelles. Merci d'être avec nous pour faire connaissance. Parce que j'ai des figures récentes. Vous avez déjà quelques pièces et quelques prix derrière vous. Quelques prix d'art radiophonique. Le dernier en date, si je ne me trompe pas, c'est le prix du festival monophonique qui a eu lieu à Bruxelles l'année dernière.
Exactement.
C'est pour une pièce qui est intitulée Anosmia, on va en parler. Et là, c'est Iota Micro, dont on entend donc un extrait, on est plongé dedans, qui a eu aussi un prix. C'est une de vos premières pièces, Iota Micro.
Oui, c'était mon premier dans le style art sonore, style radiophonie. C'était en 2012 que je l'ai réalisé à partir de field recordings, des enregistrements que j'ai faits au Rwanda. C'est le pays où je suis née. Et c'est un peu mon certificat de naissance sonore, je dirais. C'est un peu mon, la façon que je suis née étant artiste.
Parce que le point de départ, c'est un point de départ avec le son vous concernant qui est plus journalistique, en fait. L'envie était de dire les infos, c'est ça?
Pas exactement. En fait, avant, j'étais journaliste de radio et j'avais déjà fait des voyages au Rwanda, mais toujours avec en étant journaliste. Et là, quand j'ai fait les enregistrements pour Yota Micro, c'était la première fois que je suis partie avec le bagage journaliste, avec tout ce que je savais, comment enregistrer des dialogues ou des documentaires, des reportages. Mais j'ai tout de suite réalisé que je pourrais faire autre chose avec. C'était la première fois que je me suis décidée de ne pas rester dans juste le catégorie journalistique, mais d'aller plus loin, d'utiliser tout ce qui est journalistique, mais d'aller beaucoup plus loin.
Mais comment on glisse justement de ce point de départ journalistique à une forme d'expression, on va dire plus artistique, plus, peut-être plus sensitive? On entend là que vous jouez avec la matière sonore, avec même les accidents de micro, et en même temps ce qu'on entend dans d'autres pièces aussi, comme Anosmia, des moments effectivement de rencontres, de paroles articulées, comme je disais. Comment vous avez glissé pour enrichir ce langage-là?
Ouais, bah, déjà quand je faisais juste tout ce qui est documentaire radio, j'étais déjà fort intéressée par une écoute musicale vers le monde. Quand je faisais les reportages, des fois, j'étais vraiment fascinée par le son d'environ et comment le faire d'une façon musicale alors que c'était plutôt focalisé sur l'info. Et je crois qu'à un moment donné, je me suis de plus en plus intéressée dans tout ce qui est son abstrait, et j'ai un peu quitté tout ce qui est journalisme. Et j'avais déjà aussi un intérêt dans tout ce qui est musique impro, tout ce qui est art abstrait, sonore. Et à un moment donné, j'ai vraiment décidé de le faire. Et je trouvais que tout ce qui était dans le journalisme, tout ce qui était documentaire, c'était trop... fixé sur des sons trop clairs, des sons très propres. Et j'ai commencé à avoir une attitude plutôt punk, où tu peux avoir les sons sales et brutales, et comme tu as dit, les sons de micro, parce que je trouvais ça intéressant aussi de montrer qu'il n'y a pas juste les studios stériles. Il y a aussi, quand on utilise le son d'un studio stérile, comme dans la plupart des pièces journalistiques ou de documentaires, c'est en fait, c'est un peu artificiel. Même si c'est stérile et propre, c'est artificiel. Je voulais montrer ça beaucoup plus. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est médiatisation, montrer vraiment comment quelque chose est fait, la méthode derrière les méthodes. Et c'est devenu vraiment partie de mon langage sonore. Je me souviens aussi, il y a 10 ans, j'étais en 2003, donc un peu plus que 10 ans, c'était la première fois que je suis allée au Rwanda. Là j'avais fait en fait un documentaire sur mes recherches de ma famille, et j'ai vécu des situations assez difficiles pour pouvoir enregistrer tout, surtout parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et du coup, j'ai trouvé des moments hyper fragiles et intéressants, mais en même temps, avec un son très brut. Et c'est, je crois, aussi là qu'est née mon idée qu'on pourrait quand même s'en servir aussi des sons moins clairs, moins propres. Et voilà, c'est un peu là que c'est né peut-être. Mais là, j'étais toujours dans le journalisme. Et il y a quelques années, ça a pris quelques années avant que je me suis retrouvée vraiment comme musicienne, compositrice. Quand j'ai décidé de vraiment faire la composition et aussi l'art sonore et la radiophonie, c'est là que j'ai dit, je peux faire beaucoup plus que juste l'esthétique journalistique propre.
Mais Aurélie Lierman, j'imagine que c'est pas non plus un hasard qu'une naissance artistique se passe sur le lieu, dans le pays de naissance tout court. Là, il y a une coïncidence qui n'en est pas une.
Non, je crois que avoir fait le documentaire en 2002-2003, j'avais dit beaucoup de choses déjà, et je croyais il y avait encore beaucoup plus à dire, mais peut-être plus par les mots où on comprend exactement chaque mot. Parce que le voyage et l'histoire que j'ai vécue, c'était au-delà de ce qu'on peut expliquer avec les mots. Et je crois que l'idée de partir des sons documentaires, mais de quitter l'idée de vouloir expliquer tout, ça m'a donné une liberté. Et ça m'a... J'ai voulu encore mieux savoir d'où je viens, mais comme j'ai dit, c'est vraiment difficile de comprendre tout en paroles conventionnelles. Et je crois que la poésie sonore, c'est ça qui m'a donné la liberté un peu.
Ouais. C'est ce qu'on entend dans Anosmia, justement. Cette utilisation d'une poésie sonore au sens, j'allais dire, au sens large, c'est-à-dire avec tous les sons possibles, et un agencement, un rythme, une écriture véritablement sonore, très très libre aussi. C'est ça qu'on entend dans Anosmia. Mmh. C'est cette utilisation sur une temporalité très singulière, très personnelle. Et comment vous avez travaillé cette écriture? Est-ce que ça s'est passé au moment du montage essentiellement, en revenant avec des heures et des heures de rush et des musiques et des idées? Ou est-ce que sur place, vous aviez déjà des pistes vous-même? J'ai lu que vous disiez que, en plus, pour complexifier les choses ou les enrichir, je ne sais pas, vous disiez l'environnement sonore de l'Afrique, mais apparu au départ comme une terrifiante cacophonie sans fin.
Oui, en fait, en 2011, lorsque j'ai fait les enregistrements pour Yota Micro, j'ai fait un gros voyage au Rwanda, en Tanzanie et aussi l'est du Congo. Et je suis partie là pour la première fois en quittant l'idée d'être journaliste. Et j'ai dit, je vais juste suivre mes oreilles au lieu de suivre les cartes géographiques. Et je vais voir ce qui se passe. Et je vais improviser. Je vais voir ce qui se passe. Et là, j'ai juste commencé à enregistrer. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'enregistrements que je ne savais pas encore quoi faire avec. Je n'avais pas de budget. Je n'avais personne qui me disait quoi faire avec ou pourquoi. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer d'une façon tellement différente qu'avant. Et j'avais, je crois, 1000 heures que j'ai capté en 3 ou 4 mois de voyage. Imagine, c'est vraiment un catalogue des heures. C'est pour le reste de ma vie que je peux vraiment faire des
variations
avec. Oui, des variations aussi, oui. Et l'aspect Rwanda, je ne pensais même pas de pouvoir l'utiliser, en fait. Je pensais que c'était plutôt pour moi. Je savais tout ce que j'avais enregistré en Tanzanie, c'était vraiment parfait. Il y avait un festival de musique où j'ai fait des enregistrements vraiment prêts pour un album, pour un album ethnomusicologue. Mm-hmm. Mais au Rwanda, c'était vraiment, je ne savais pas quoi faire avec. Et en fait, c'était vers mon retour du festival Grand Prix Nova où j'ai gagné le prix Yota Micro. Mm-hmm. C'était en octobre 2013, je suis retournée. Là, j'avais dit, j'ai déjà fait un peu des essais avec les enregistrements que j'ai eus du Rwanda et de Tanzanie. Je crois que je vais quitter un peu cette direction. Je vais même quitter un peu la radiophonie. Je voulais en fait beaucoup plus me focaliser sur tout ce qui est composition stricte, mm-hmm. tout ce qui est instrument acoustique. Mais il y a eu le Kunstradio à Vienne et puis South Radio, une plateforme ici en Belgique, qui m'ont invité à faire un projet sur l'idée de parésia. Et parésia, c'est un mot que Michel Foucault a pas mal utilisé pour expliquer un aspect très spécifique. C'est dire parler sur le sujet qu'on n'ose pas parler. Prendre le risque de parler sur des choses qu'on devrait ou on n'osait pas parler. Mm-hmm. Et alors, South Radio savait que j'avais été au Rwanda, il disait, voilà, on voulait te proposer de faire quelque chose avec cet sujet. Et lorsqu'ils m'ont proposé, j'ai dit, quand même, tout ce que j'ai vécu là, tout ce que mm-hmm. j'ai enregistré là, c'était vraiment pas du tout pour diffuser parce que c'était avec des sons vraiment le plus brut que possible, mm-hmm. dans des conditions le plus... J'ai vraiment fait aussi des recherches pour voir à quel point... Est-ce que je peux aller? C'est quoi la limite? Et je suis vraiment passée au-delà. Je crois que mes collègues anciennes de la radio, ils me tuaient. Ils écoutent les sons que j'ai captés là. Alors que lorsqu'ils m'ont proposé pour faire une pièce pour Kunstradio dans l'idée de parésia, mm-hmm. j'ai tout de suite réalisé. C'est vraiment la situation parfaite pour me mettre en liberté totale,
oui, en liberté.
Beaucoup plus encore que Yota Micro.
My nose, how is my nose?
Mm-hmm. Very cool. Very cool. Very
cool. When you see my nose?
Your nose is half.
Half?
Yes, between our tooth and our foot.
So maybe I'm a mixture?
Yes, you are mixed. You are mixed. But sometime, you will meet with someone who has a big nose. Yeah? Don't you see them?
Big nose.
Have you seen them? These ones are the Abahutu. Even if you meet with someone who has a big nose, wherever you see him, wherever, you must call him Umhutu.
Even if he's Tutsi.
A Tutsi has a long nose. You see, like this.
Long nose.
The first thing you must eat. You should eat.
Mm?
You should eat.
Mm.
Sadness in noses, singing, whispering.
Sogokuru, komir.
But the sadness of their eyes.
And me, what am I?
Your face is half. But do you see you are short? Because you are
short.
You are physically is like the Hutu. Physically, like this. But your face, it's half between Tutsi and the Hutu. Yes. Because your nose is not big. It's like this. It's like the Tutsi. Yes. You have a good nose, not fat. But you will meet if someone who has a big nose. Yeah, it's a Hutu.
What do you like most?
What? I cannot say I'm Tutsi, I'm Hutu. Not.
Ça part un peu des événements du génocide rwandais de 1994. Et en fait, j'ai toujours voulu éviter un peu ce sujet parce que c'est un sujet énorme. Mmh. Et moi, je n'ai pas vécu au Rwanda en 94. Donc, je ne savais pas comment est-ce qu'on peut même parler de ça quand on n'a pas été là. Mais lorsque dans un de mes voyages, il y a David Mombari que j'ai rencontré. C'est un jeune intellectuel rwandais qui m'a expliqué comment, si j'aurais été au Rwanda en 94, j'aurais vraiment eu du mal à survivre la situation. Parce que j'ai une physique très mixte. Mmh. Premièrement, je ne crois pas dans les explications génocidaires, comme on a expliqué pendant la guerre en 1994, quand on a essayé de dire qu'il y a les Hutus, les Tutsis, il y a les deux camps. Moi, je n'en crois pas, mais il y a toujours une philosophie, il y a toujours une théorie qui existe selon quelques personnes. Donc, ceux qui sont Tutsis, ils ont le nez étroit et long et sont élancés. Et ceux qui sont Hutus sont plutôt courts et très costauds. Et moi, j'ai un peu les deux. J'ai le nez très, très étroit, mais je suis très courte. Alors, pendant la génocide, c'était très difficile à savoir qui était l'ennemi des fois. Et on a décidé, voilà, si on voit que, même si tu es courte, au cours, si on voit que ton nez est trop étroite, on te considère comme l'ennemi, on va te tuer tout de suite. Et moi, ça m'a choquée parce que moi, je n'ai rien à faire avec cette histoire. J'ai grandi en Belgique et ça m'a touchée fortement. Et après quelques années qu'on a fait connaissance, David et moi, il m'a en fait envoyé par hasard une fois sa collection de poèmes parce que lui, il a survécu la génocide. Il a vraiment vécu en 94 là-bas, puis il a quitté le Rwanda, il a quitté pour Kenya. Et il y a toute une histoire encore marquante pour lui-même. Mais il m'a envoyé alors ses idées, ses poèmes. Et un de ses poèmes, c'était « The Politics of the Nose ». Et j'ai lu et vraiment, c'était un des seuls écritures que je voyais en quelques mots, tu vois vraiment, c'est ce que le Rwanda a vécu en 94, pendant ce peu de mois d'avril 94 jusqu'à juillet 94. Et il a fait ça d'une façon vraiment très élégante. C'était comme un tableau vivant, c'était comme un genre de Guernica, comme le Picasso, mais en mots. Et là, je voyais vraiment aussi mon histoire dedans, où il explique qu'il y a plusieurs sortes, mais il y a tellement genre de nez gros, petit, je sais pas. Et lorsque South Radio, en 2013, m'a proposé de faire un morceau sur le Rwanda et sur l'idée de Parésia, j'ai tout de suite dit, je veux vraiment le faire avec cette poème-là. Ça doit être le fil rouge pour ma pièce.
Rapidement, Aurélie Nierman, aujourd'hui, en ce moment, et je crois que c'est jusqu'au mois de mai, vous êtes plutôt sur une scène liée à l'art contemporain, à Bâle, c'est ça?
Oui, exactement, oui, à Kunsthalle Bâle. Il y a une expo qui vient d'être montée il y a 2 semaines, c'est Patterns for Recognition, et c'est un gros expo, le premier expo de Vincent Mason, c'est un belge, un artiste visuel belge, sur le sujet de Djila Tendo, c'est un artiste congolais qui est considéré comme le premier artiste contemporain congolais. Mmh. Et moi, j'ai pu travailler avec Vincent Mason pour réaliser une pièce sonore, une installation, une sculpture sonore, je dirais, avec 4 enregistreurs Nagra des années 50, où on laisse écouter la voix d'un professeur, Jan van Sina, c'est un prof belge qui a fait pas mal d'écriture pionnier.
Un pionnier de l'histoire orale, c'est ça?
Oui, donc Jan van Sina est un pionnier d'histoire orale et il est un des seuls qui a pu rencontrer ce Djila Tendo, cet artiste congolais qui est décédé déjà dans les années 60. Et alors on a fait vraiment, on a utilisé l'anecdote du rencontre entre Jan van Sina avec Djila Tendo. Il faut savoir que Jan van Sina, il a écrit pas mal de choses sur une méthode pour faire de l'histoire orale dans des régions où il n'y a vraiment pas ou très peu de sources écrites. Et puis, c'est vraiment marquant qu'il n'a jamais écrit sur le fait qu'il a quand même rencontré ce Djila Tendo, qui est considéré comme le premier artiste contemporain congolais. Et on l'a fait l'anecdote, alors on l'a fait sortir comme Jan van Sina lui-même, il devient de l'histoire orale.
Oui, vous jouez avec la voix de Jan van Sina, en fait.
C'est ça, il y a les 4 Nagra qui ont tous des petites boucles avec sa voix manipulée, fort manipulée. On a fait un jeu d'échantillonnage,
oui,
parce que il y a Jan van Sina qui a réalisé la méthodologie pour faire l'histoire orale d'une façon vraiment scientifique, et il parle de sampling, donc il allait dans les collines au Rwanda ou même dans les régions de Kuba au Congo, où il allait chercher les gens, les men of memory, des gens qui ont les mémoires, pour faire beaucoup d'interviews, et il a trouvé une méthode vraiment nickel pour pouvoir distraire, faire une distraction et faire de l'histoire cette région-là. Et maintenant, en fait, avec notre approche, il est devenu lui-même un man of memory. Et il nous raconte une anecdote qui nulle part est écrite dans l'histoire, dans les livres officiels. Et il fait un lien, en fait, avec un passé qui est très peu encore expliqué dans les histoires.
Vous avez échantillonné, samplé l'homme qui samplait lui-même les gens de mémoire à travers plusieurs pays, donc ce Jan van Sina, et sans doute que vous continuerez à le rechercher, parce que c'est par téléphone que vous l'avez enregistré, il faut le rencontrer maintenant.
Oui, c'était que par téléphone, et c'était vraiment une rencontre magnifique. On pensait de l'avoir juste pour 10 minutes, 15 minutes. Et puis il a été tellement généreux, il nous a parlé pendant une heure. Et pour moi, c'était incroyable de pouvoir le parler comme il a vraiment pas mal travaillé cette méthode-là. C'est incroyable comme il a fait. Mais aussi, il a vécu tout cela. Il a été au Rwanda, au Congo, dans une époque, il n'y avait même pas encore les Nagrap. Il n'y avait pas les MP3. Il a pu faire le travail en écrivant lui-même et développer la méthode lui-même. Et alors j'espère, parce qu'il a 85 ans, j'espère vraiment de pouvoir le parler. Je vais voyager aux États-Unis en été 2015, et j'espère de pouvoir parler pendant beaucoup plus de temps pour en profiter de ce monsieur de tradition orale.
Voilà, et ça c'est une pièce qui s'appelle Sampling the Man of Memory, qu'on peut entendre et voir. Donc c'est une installation dans cette exposition Patterns for Recognition, modèle pour la reconnaissance. Ouais, c'est la traduction à la Kunsthalle à Bâle jusqu'à la mi-mai. Merci beaucoup Aurélie Diermann d'avoir été avec nous en duplex depuis Bruxelles, et donc ce n'est qu'un début, on l'a bien compris. On vous souhaite une bonne suite dans ce monde de l'art sonore et radiophonique.
Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Au revoir.
Voilà, donc pour en savoir plus sur Aurélie Liermann, alors qu'un peu par hasard, il faut l'avouer, sont ces jours-ci les 21 ans du génocide rwandais. Et pour aller plus loin, il y a non seulement ce qu'on a mis sur le site de l'Atelier du Son, sur franceculture.fr, mais aussi d'autres interventions très prochainement d'Aurélie Liermann sur des canaux amis, notamment la web scene radio de Dominique Balaï. On met aussi le bon lien sur le site. L'Atelier du son, c'est terminé pour ce soir. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Dimitri Scapolan. Podcast, réécoute et commentaires sur franceculture.fr, déjà cité.